7h28, notre invité ce matin, Pierre Fitzgibbon, qui est le ministre de l'Économie, de l'Innovation. Disons qu'il y a pas mal de sujets dans l'actualité. M. Fitzgibbon, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Je vais commencer avec Desjardins, parce qu'on a appris donc vendredi que tous les membres Desjardins, les individus, là, peut-être pas les entreprises, ont vu les infos personnelles les concernant être piratées, être volées. On ne sait pas ce qui est arrivé encore dans le détail. Vous êtes ministre de l'Économie, je comprends que ce n'est pas dans votre cours là, direct, mais quand même... Ça commence à être assez préoccupant, pas juste Desjardins, là, mais la protection des informations personnelles.
Entièrement d'accord avec vous. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup le gouvernement, je peux vous le confirmer. On est sensible à ça, les gens sont inquiets avec raison, et je peux vous dire qu'on est en même en action parce que il y a trois ministres qui sont pas à temps plein, mais pratiquement sur ça. On a M. Rick Kerr qui s'occupe de la cybersécurité, évidemment. Puis on a quand même des avantages comparatifs au Québec avec notre intelligence artificielle. Je pense qu'on peut faire des choses là. On va faire des choses là. M. Rick Girard, qui s'occupe de toutes les agences de crédit, il y en a deux, hein, Trans Mountain puis Equifax, faut les encadrer. Puis il y a Sonia Lebel qui s'occupe de la question de la protection des informations personnelles. Je pense qu'on a trois ministres en action, alors c'est sûr qu'il faut faire quelque chose parce que c'est un sujet préoccupant, je suis d'accord avec vous.
Mais moi, je me dis une chose, si Desjardins se fait voler 4,2 millions de dossiers personnels, les infos du gouvernement du Québec, les infos à Revenu Québec, le dossier de santé, là, j'ai pas grand garantie que c'est pas accessible à des pirates, ça.
Vous avez raison. Et c'est pour ça que M. Kerr s'occupe de tout le côté numérisation gouvernementale. On parle de cybersécurité, on parle aussi d'identification personnelle. On parle de se soustraire de l'assurance sociale. Et moi, je travaille un peu en santé avec Mme McCann parce que nos données santé peuvent être très utiles. D'autre part, peuvent être très utiles pour l'avancement de la thérapie de la cellulaire, de la thérapie, de toute la médecine personnalisée. Alors, d'un côté, il faut prendre nos données puis travailler avec. De l'autre côté, il faut s'assurer qu'ils soient dépersonnalisés d'une part et qu'ils soient protégés. Alors, on travaille des deux côtés en même temps.
Pensez-vous que le numéro d'assurance sociale, c'est périmé?
Ben, beaucoup de monde pense que ça. Je ne suis pas un expert de ça, mais c'est sûr qu'avec Eric, on regarde pour d'autres façons d'arriver à l'information. Puis aussi, il faut faire attention. À quoi sert l'information? Alors, c'est pour ça que moi, je pense que M. Girard, vous le voyez cette semaine, vous pourriez en parler, M. Girard s'adresse au vrai enjeu, à savoir des mécanismes de détection pour en cas de crédit, par exemple, une fausse carte de crédit. Alors, je pense qu'il faut aussi faut protéger l'information, mais il faut aussi s'assurer qu'elle va servir à quoi. Je pense que c'est là qu'il va être... C'est multidirectionnel, tout ça. Je pense qu'on a les bonnes personnes qui le regardent présentement.
Vous parlez beaucoup d'intelligence artificielle. Si vous aviez à résumer aux auditeurs ce matin, Montréal, le Québec, là, mais Montréal en est où dans le développement de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on se pète les bretelles en disant qu'on est parmi les meilleurs en Amérique du Nord ou si on est, je sais pas moi, dans la moyenne, on est où?
Écoutez, au niveau de la recherche fondamentale, si on pense au docteur Bengio, on pense à tous ces gens-là, on est des champions du monde. Avec d'autres endroits, Londres, il y a Singapour. Je pense qu'on a fait un travail extraordinaire en investissement, en recherche fondamentale. Ce qu'on fait maintenant avec notre gouvernement, c'est de faire l'application de l'IA. Ça, c'est là qu'il nous gardien, parce que si on veut que nos entreprises au Québec comblent l'écart de productivité, qui est une de mes obsessions, il faut absolument que l'IA soit applicable. Alors, on investit beaucoup depuis un an. On pense à Prompt, on pense à Scale AI, à la SuperGap, on pense à Evado Lab. Imagia, il y a plusieurs sociétés Element AI qui, maintenant, vont prendre le fondamental et vont le rendre appliqué. Si on réussit à faire ça, on va donner le champion du monde dans tout. Alors, pour l'instant, on part d'une fondation extraordinaire et le mandat du gouvernement, c'est de le rendre applicable au PME du Québec.
Mais quand vous dites qu'il faut que ça s'applique, là, c'est beau faire la recherche puis le développer, mais tu sais, je prends l'exemple du 5G. On peut pas dire que les connexions 3G actuellement au Québec, là, on est dans les meilleurs. Dès qu'on sort un peu puis qu'on va se promener, là, puis vous le savez autant que moi, là, à quel moment les Québécois, on est peut-être bien bon pour faire la recherche, là, mais que je vais avoir un téléphone 5G qui va avoir de l'allure.
Bon,
pas trop cher.
Premièrement, vous n'aurez probablement pas de téléphone 5G. Juste pour mettre un peu de contexte, vous avez raison. À côté de mon cerveau, s'occupe de brancher 340 000 Québécois qui ne sont pas branchés à l'Internet à haute vitesse. On parle de 50 mégabits par seconde. Et de l'autre côté, on a lancé, j'ai fait une conférence de presse la semaine passée, on a lancé un laboratoire pour nos PME travailler sur 5G qui va à 10 000 mégabits par seconde. Donc, c'est un peu paradoxal que d'un côté, on n'a pas branché, d'autres super branchés. Mais ce programme-là, auquel vous référez, c'est un programme qui va permettre à plus que 200-300 sociétés québécoises, des PME, de jouer avec la technologie 5G. Pas pour un téléphone cellulaire, vous et moi, on n'aura pas de ça. C'est plus pour les entreprises qui vont connecter leur objet. On pense à toute la question du transport intelligent. le LIDAR. On faut penser que les voitures vont se promener, ils vont passer d'un serveur à l'autre. Alors ça, il faut être en temps réel. Temps réel, c'est 10 000 mégabits, c'est une très basse latence. Alors moi, je pense que le 5G va permettre aux compagnies québécoises, peut-être, d'aller plus vite et de passer à travers une étape pour être encore plus compétitif. Alors moi, je pense qu'il faut en même temps qu'on connecte le Québec, il faut aussi donner aux entreprises québécoises le loisir de pouvoir travailler sur 5G.
Est-ce que l'entreprise chinoise Huawei est dans le décor?
Heureusement, non. Il y a deux sociétés internationales qui jouent dans le 5G, c'est Ericsson et Huawei. Le programme encore auquel vous référez, c'est un programme avec 5 donneurs d'ordre, dont Ericsson, qui est le partenaire principal.
Huawei n'est pas là-dedans?
Non.
Est-ce qu'il l'a déjà été?
À ma connaissance, non. Mais écoutez, s'il faut faire attention, 5G, c'est très global. Pour l'instant, on ne les voit pas. On travaille avec Ericsson. Il faut comprendre, les réseaux n'ont pas été déployés encore. Quand on va déployer les réseaux 5G à travers le Canada, le Québec, on en a pour plusieurs centaines de millions. On verra ce moment-là. Pour l'instant, les tests que nous faisons avec le gouvernement fédéral, les PME, les 5 donneurs d'ordre, n'incluent pas Huawei.
Comment, parce que votre collègue Charrette a annoncé la semaine dernière, bon, toute la stratégie du plan vert, puis bon, comment vous allez concilier économie et environnement, dans le sens suivant. Vous êtes le ministre de l'économie, votre job, c'est de trouver des jobs, puis c'est de faire que le monde soit productif, puis d'avoir les meilleurs investissements possibles. Puis des fois, ça va se confronter à la réalité de l'environnement. Qui va gagner? C'est vous ou ben non, c'est Charrette?
Premièrement, je pense qu'on est maintenant rendu où l'économie et l'environnement, c'est quasiment un tout. Je fais souvent référence au fait que l'environnement va nourrir l'économie. Et c'est pas juste un mot, c'est vraiment ce que je pense. Parce que, par exemple, ce matin ou hier, M. Charrette a annoncé le recyclage des frigidaires.
Ouais.
Ben, cette compagnie-là, moi, je l'ai aidé. On a parlé du plastique. Moi, j'ai investi, le ministère de l'Économie, via Investissement Québec, on a investi dans une compagnie qui s'appelle Loop Industries à Terrebonne, qui va recycler le plastique pour faire les bouteilles. Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, je regarde nos projets d'investissement en économie. J'ai pas le pourcentage exact, mais je pourrais dire qu'il doit y avoir 25 % de ce qu'on fait qui touche l'environnement. Alors, je pense qu'on est rendu ailleurs dans le cycle. Puis je pense que l'environnement n'est plus juste un élément qui va focaliser M. Charrette, tous les ministres. Tout confondu. On est tous face à ça. L'économie, évidemment, plus que d'autres.
Mais il y a eu beaucoup de gestes contradictoires dans le passé, je le dis à votre collègue. Là. À un moment donné, on a investi dans l'éolien, puis après ça, on va investir dans une cimenterie. Là, il y a un projet exemple de gaz naturel au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez dit, je ne mettrai pas un milliard dans ça, mais allez-vous mettre 500 millions?
Ben écoutez, là, premièrement, il faut regarder l'accord de Paris. C'est l'article 6, je pense. Si on regarde l'impact des émissions sur une base planétaire, On pourrait conclure que le projet de GNL Québec sur une base planétaire pourrait être positif. Pourquoi? Parce que si on remplace le charbon, si on remplace l'énergie moins propre que ce qu'on a, moins propre que le gaz naturel liquéfié, par le gaz naturel liquéfié, pourquoi pas? Alors moi, j'ai toujours dit que ce projet-là, il faut l'étudier. Et moi, je pense que l'environnement, il faut faire attention. Il va falloir que la science soit au rendez-vous. On écoute un paquet de monde qui disent n'importe quoi, là, mais l'environnement, c'est très scientifique.
Qu'est-ce que vous voulez dire, un paquet de monde qui disent n'importe quoi?
Non, excusez-moi, je recommence. Des gens qui n'ont pas des données scientifiques, des bases scientifiques, ils font des allégations, ils font des choses. Là. Moi, je pense qu'il faut...
Ben, donnez-moi un exemple, je veux juste mieux vous comprendre.
Ben, le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, c'est une énergie qui est plus propre que le charbon. Alors, si on peut exporter du GNL dans des endroits où ils consomment du charbon, ben, c'est une base planétaire, je pense que c'est positif. Deuxièmement, si on a besoin de GNL, je dis bien si, sur un pipeline, c'est peut-être plus sécure que sur un bateau. Alors, je pense qu'il faut faire attention, mais dans tous les cas d'espèce, il est clair que notre gouvernement veut s'assurer de la science au rendez-vous. On n'ira pas juste des choses intuitivement.
Deux choses. Vous avez fait de la peine à bien des employés de Rona. Quand vous avez dit, moi, j'achète québécois, OK, puis j'achète des produits, puis j'achète chez des marchands québécois, il y a bien des détaillants qui ont levé la main en disant « Excusez-nous, mais on est Québécois et on embauche du monde. » Vous vouliez dire quoi?
Ben écoutez, effectivement, mes paroles ont planté. Je vais assumer mes responsabilités. Il faut comprendre, ceux qui me connaissent, je veux aider des entreprises dans tous les cas d'espèce où je peux le faire. Deuxièmement, le mot boycott n'a jamais été utilisé. Ce matin-là, je n'étais pas content parce que, je sais pas, la semaine avant, j'avais été annoncé la fermeture temporaire de Fortress. On l'avait planifié, on avait travaillé avec mon collègue Jean Boulay. J'étais arrivé là, préparé. Dans le cas de Lowe's, pour les 60 employés qui ont été mis à pied, ben on l'a su comme 3 minutes avant que ça arrive. Alors, moi, j'étais un peu, je trouve ça correct.
C'est pas un bon citoyen corporatif.
Hein. Ben, pas dans ma définition. Peut-être que je me trompe. Là. Alors moi, si on m'avait appelé avant, on m'avait dit, voici ce qui va se passer. Travaillons ensemble, regardons ce qu'on fait des employés. Parce que la première préoccupation, c'est les employés qui perdent leur emploi. Alors, quand tu arrives comme ministre de l'économie, tu apprends ça dans le même temps que le fil de presse, tu dis, ben là, peut-être qu'il a manqué un peu de rigueur. Peut-être que je me trompe. Alors, je suis pas content. Alors, évidemment, l'erreur que j'ai faite, c'est de mentionner où je magasine. Là. Je pense que dans l'avenir, je vais regarder pour moi mes choix personnels. Mais bon, c'est clair que... Et d'ailleurs, j'ai parlé à plusieurs marchands Rona. Le lendemain matin, je faisais une pelletée de terre pour une usine, la Granaudière à Saint-Michel-des-Saints. J'avais une pelle Rona dans les mains. Alors, j'ai vu le propriétaire le soir. Je pense qu'on a corrigé ça. Okay.
Deux choses. La première, Capital Média, il arrive quoi, là? Qui va ramasser les journaux?
Ben écoutez, on est en processus. Il y a des repreneurs potentiels. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y en a quelques-uns. Nous sommes en négociation. Quand je dis nous, Christian Bourque, qui est le syndic de Pricewaterhouse, avec M. Lavallée, travaille avec ça. Je ne peux pas conclure aujourd'hui, mais au moins, le processus qu'on voulait avoir se matérialise et nous avons des gens intéressés. Et on peut peut-être...
Parlez-vous au pluriel? Il y a vraiment plusieurs acheteurs potentiels?
Il y en a plus qu'un, puis il y en a moins que cinq.
Puis tous des modes coop ou des investisseurs plus traditionnels?
Il y a les deux. Les deux. Puis je dirais qu'à ce moment-ci, là, c'est encore, faut jouer pas prématuré, je ne veux pas aller trop vite, là, mais on aurait une bonne chance d'avoir une pérennité complète des six.
OK. Dernière question. Valérie Plante, qui fait le bilan, parlait en fin de semaine du double standard en politique. Elle, qui fait un discours en anglais, qui se fait crucifier, vous avez fait la même affaire en Ontario, beaucoup moins exposé médiatiquement. Pensez-vous qu'il y a un double standard, homme-femme?
Je répondais pas à ça directement. J'ai vu Valérie après ça, puis on a fait des farces par rapport à ça. Je m'entends très bien avec Valérie. Puis on travaille ensemble sur les projets économiques de Montréal. Écoutez, moi, j'étais à Toronto, elle était à Montréal, là, premièrement. Et bon, je me suis fait réprimander par mon premier ministre, avec juste titre. Alors, je ferai plus la même erreur. Alors, je vais arrêter là.
Mais pensez-vous qu'il y a un double standard?
Pas nécessairement. Je pense que le contexte est un peu différent, je pense.
OK. 7h39, merci. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie.